Apparaissent dans ces contenus en ligne. Un Arca Server est une entité hybride qui existe en ligne et hors ligne. Elle existe en live. Elle héberge car on peut y dormir et travailler, et parce qu'elle prend soin des contenus et des services qu'elle sert aux habitantes et personnes qui lui rendent visite. Un Arca Server documente, archive, crée de la mémoire sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Un Arca Server est un des nombreux exemples de ce que nous entendons par infrastructure féministe. Infrastructure féministe, infrafem, technique pour la vie, technologie appropriée. Infrafem, technique pour la vie, technologie appropriée. Nous parlons ici de la contribution des féministes au développement des technologies et des technologies libératrices, pierre angulaire dans la construction de l'infrastructure féministe qui nous intéresse ici. La Her Story nous indique comment de nombreuses techniques et de technologies de la vie quotidienne ont été conçues par des réseaux de femmes anonymes. Elles ont toujours été là, faisant des technologies appropriées, sans contamination ni soustraction, des technologies lentes, des technologies ancestrales, des technologies mineures, des technologies libres. Les femmes ont été les porteuses et garantes du partage et de l'évolution des connaissances ou des techniques au sein des communautés. Car comme le rappelle Margarita Padilla, dans la lutte pour la souveraineté, on parle de communauté. Personne n'invente, ne construit ou ne programme seul, simplement parce que la complexité de la tâche est telle qu'elle serait impossible. Sans aucun doute, lorsqu'on regarde de près le panorama de la souveraineté technologique, des technologies appropriées, des techniques libératrices, des infrastructures féministes, on trouve de nombreuses femmes et personnes LGBTQ au sein de ces communautés qui les implémentent et soutiennent. Qu'est-ce qui marque la ligne sensible différenciant les techniques et les technologies et pourquoi cela est-il important pour l'infrastructure féministe? Selon Biagini et Carmino, la technique est à la fois un savoir-faire et des outils, c'est-à-dire un ensemble de processus informels et leur sédimentation instrumentale dans les objets produits par les artisans. Par contre, la technologie est un ensemble de processus macro-techniques, c'est-à-dire des processus plus vastes que l'être humain et la communauté d'un village, qui sont rendus possibles par l'alliance de la science et de la technologie. Ainsi, la technique peut être non technologique, mais la technologie est basée sur l'absorption des techniques. Dans la systématisation induite par la production de technologies, les techniques pour la vie peuvent être ignorées ou complètement détruites. Ce sont elles qui nous offrent d'autres façons de penser notre relation avec l'environnement et les valeurs que nous projetons dans cette relation. Toujours selon Biagini et Carmino, ils nous fournissent un autre élément central de réflexion et nous indiquent le suivant. Selon Whitney, le monde antique a continué à produire des faits relatifs plutôt qu'absolus, parce qu'il était basé sur des connaissances essentiellement situées et difficiles à transférer ailleurs. L'industrialisation et son corollaire, la prolétarisation définie comme une dépossession artisanale, n'ont été possibles à grande échelle qu'avec l'aide de la science en développement. Cette science, loin d'être spéculative, est profondément ancrée dans la réalité, c'est un fait. Cette sentence nous montre le potentiel offert par les pratiques spéculatives pour récupérer les techniques pour la vie et nous conduire vers des technologies appropriées pour nos communautés. Dans le situé, le spéculatif, nous trouvons un moyen de nous débarrasser du mythe de la science et du progrès technologique. Cette technologie qui se définit avant tout comme une politique de rapidité et de rupture. Move fast and break things. Très peu participent à son rêve, à sa conception, à sa décision. Mais nous sommes toutes exposées aux effets de sa mise en œuvre. Elle ne laisse aucune place pour une conception spéculative collective des techniques et des technologies dont nous avons besoin et que nous méritons. La science moderne et les nouvelles technologies sont basées sur la mise à distance, l'annulation ou l'absorption des techniques nécessaires à la vie. Elles nous empêchent de trouver les étapes, les raccourcis et les chemins vers nos technologies appropriées. Selon Elflal, une technologie adéquate est également appropriée, copiée, obtenue. Et elle décrit la technologie qui est la mieux adaptée au contexte environnemental, culturel et économique. Elle nécessite peu de ressources, elle est peu coûteuse, elle a un faible impact sur l'environnement, elle ne nécessite pas de niveau élevé de maintenance. Elle est générée avec des compétences, des outils, des matériaux locaux. Et elle peut être réparée, modifiée et transformée localement. Après tout, quelle communauté n'a pas besoin d'une technologie qui soit efficace, comprise et adaptée à son propre contexte? Dans cette compréhension et la construction d'une relation de consentement entre les communautés et leurs technologies appropriées, nous trouvons les clés d'une infrastructure féministe qui soutient la régénération des écosystèmes. Comme s'ils reposaient sur des processus d'autoproduction et d'autopoïesis. Ces infrastructures féministes se nourrissent de nos idées, de nos souvenirs, de nos récits, de nos histoires, de nos fables et de nos désirs. L'infrastructure féministe se trouve le plus souvent en dessous et sur les côtés. Elle est souvent précaire, volontaire et difficile à voir. Mais elle est aussi étendue, distribuée, et elle place en son centre la valeur et l'affectation que les personnes, les machines et l'écosystème qui la composent s'offrent les uns aux autres. qui nous soutient est le plus souvent invisible. Le terme infrastructure combine les mots structure et infra, qui signifie en dessous. Notre définition du terme nous surprend par son caractère vague. Les installations qui constituent la base de toute opération ou système. L'infrastructure semble difficile à cerner et définir. La versatilité du terme la rend d'autant plus évanescente, puisque l'infrastructure peut exister dans des dimensions aussi variées que les ponts et chaussées, l'architecture, les systèmes de gestion d'énergie, la souveraineté nationale, le génie civil et militaire, les habitudes et pratiques sociales, les réseaux d'appui et solidarité ou encore l'infrastructure informatique. L'infrastructure semble en tous les cas faire référence à ce qui est difficilement visible ou ce que l'on rend peu visible ou ce qui n'est pas censé être vu. On a donc tendance à ne pas la voir, l'oublier ou l'ignorer. Chacune de ces acceptations peut signifier quelque chose de différent pour l'infrastructure féministe, car celle-ci peut vouloir rester peu visible pour des raisons de sécurité, d'exposition, d'affinité, ou alors être rendue invisible par les effets de discrimination ou d'autocensure qui effacent la contribution des femmes. Ainsi, s'il n'est pas aisé de cerner et de définir ce qui relève de l'infrastructure, on peut se demander s'il existe des moyens pour identifier l'infrastructure en particulier. Comment la trouver, voire renommer? Comment expliquer son modus operandi, ce qui la maintient? Comment déterminer à quoi sert-elle et qui souvient-elle? Ici, nous utilisons une définition large de l'infrastructure féministe. Nous entendons par infrastructure féministe tout ce qui soutient et étaye avec des ressources plus ou moins stables les luttes féministes pour leur développement et leur avancement. Par ressources, nous parlons de techniques, technologies et processus, qu'ils soient analogiques, numériques ou sociaux. Comme exemple d'infrastructure féministe, nous pouvons citer depuis la construction d'espaces sûrs, les refuges, les bibliothèques, les réseaux de sororité et de confiance, les whisper lists, les serveurs, les pages jaunes, les répositoires, les bots, les outils de documentation de mémoire, les encyclopédies, les her stories, les techniques de vie au sens large, les sorts, les rituels, les exorcismes. L'infrafem inclut également des éléments mobiles, éphémères et transitoires qui peuvent se trouver dans l'infrastructure temporaire consistant des rencontres, ateliers et fêtes qui nourrissent la confiance, l'affect et le bien-être des féminismes. L'infrastructure féministe existe depuis qu'il y a des mouvements et des collectifs féministes. Elle est une des manifestations et résultats de la synergie des activités et interactions entre féministes. Et elle sous-tend une systématisation et une circulation des bonnes idées, pratiques et soins qui s'y donnent. Elle s'étend donc aussi aux pratiques féministes avec les techniques et les technologies d'information, communication, documentation et mise en relation. Le concept d'infrafem est ainsi lié au concept d'Internet féministe et de serveur féministe. L'idée d'une Internet féministe se base sur les principes féministes de l'Internet, qui sont une série de déclarations qui offrent une perspective de genre et de droits sexuels sur les droits fondamentaux liés à l'Internet. Ils ont été rédigés lors d'une première réunion en 2014 en Malaisie, organisée par l'Association pour le progrès des communications. Il existe actuellement 17 principes au total, organisés en 5 catégories. Accès, mouvement, économie, expression et incarnation. Ensemble, ils visent à fournir un cadre permettant aux mouvements de femmes et LGBTQ de pouvoir articuler et explorer les questions liées aux technologies d'information et de communication. Ainsi, un Internet féministe se consacre à rendre autonome de plus en plus de femmes et de personnes queer dans toutes nos diversités, afin de jouir pleinement de nos droits, de participer à des activités de loisirs et de plaisir, et de démanteler le patriarcat. Il convient pour cela de prendre en compte nos différentes réalités, nos différents contextes et spécificités, qu'il s'agisse de l'âge, des handicaps, des sexualités, des identités, expressions de genre, de nos statuts socio-économiques, de nos croyances politiques ou religieuses, de nos origines ethniques ou encore de nos marqueurs raciaux. L'Internet féministe fonctionne comme une aspiration, une feuille de route pour rendre Internet plus inclusif, sûr et aimable pour toutes les diversités de corps et d'affects qui l'habitent, ainsi que pour réclamer, se réapproprier de son potentiel pour la dissidence et la transformation sociale et politique. En ce sens, on peut créer temporairement et même de manière stable de l'Internet féministe au sein de l'Internet commercial, patriarcal, colonialiste, capitaliste actuel. Prenons par exemple n'importe quelle création de groupes et conversations féministes autogérées au sein d'Internet. L'Internet féministe existe heureusement déjà. Elle peut se faire au sein d'une infrastructure numérique qui n'est pas féministe ni dans son développement ni dans son aspiration. Par sa présence, elle gestionne les relations de pouvoir et de division du travail qui y prennent place. Eugenia Ciapera nous rappelle en effet que dans la concurrence sociale croissante imposée par le capitalisme néolibéral de l'information, la misogynie réapparaît comme un symptôme des luttes pour une nouvelle division du travail. Personne ne peut être sûr de ce qui se passera à l'avenir. La misogynie en ligne et la violence numérique fondée sur le sexe peuvent être considérées comme une version moderne de la misogynie et de la violence contre les femmes dans la période de transition entre féodalisme et capitalisme. Comme le montre Silvia Federici dans son livre Caliban et la sorcière, on peut trouver de nombreuses analogies entre cette époque et celle que nous vivons aujourd'hui en ligne. Ainsi, l'Internet féministe existe, mais il peut se développer en des lieux qui restent inconfortables. C'est comme si on tentait de créer des nouveaux mondes dans un centre commercial, duquel on peut nous demander de sortir à n'importe quel moment, et dans lequel toutes les caméras et droits sont attribués par défaut aux propriétaires de la plateforme. Cela peut se faire, nous le faisons tous les jours, mais cela ne fournit pas le même confort que de se savoir dans une zone autogérée, dans une infrastructure où toutes celles qui l'habitent peuvent jouer un rôle dans sa définition, forme, maintenance et gouvernance. Dans un autre sens, l'Internet féministe inclut aussi les serveurs féministes, qui se constituent comme une des façons de créer de l'infrafemme au sein d'Internet. Mais le concept d'infrastructure féministe ne peut se réduire au concept d'Internet féministe, car il est plus vaste et concerne d'autres espaces et technologies en dehors d'Internet. Aussi parce que l'infrafemme est pensée développée dans des féministes clubs en ligne. Elle ne prend pas place dans des infrastructures patriarcales, elle crée sa propre infrastructure. Elle parasite depuis en dessous et depuis les côtés. L'infrafemme est notre réponse créative et systémique aux failles de l'infrastructure patriarcale et capitaliste. Nos perspectives et conditions d'accès, d'utilisation et de développement des technologies sont profondément influencées par la façon dont le patriarcat, le capitalisme et le colonialisme sont ancrés dans notre vie quotidienne, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. La création d'une infrastructure féministe nous donne des réponses et de la valeur. Penser à la diversité de notre contribution et de nos actions nous permet d'ouvrir de nouveaux horizons d'action politique, ainsi que des processus de réparation, et ainsi modeler d'autres possibilités pour nous toutes. Nous devons développer des méthodologies pour identifier les processus qui créent de l'infrafemme et approfondir au sujet de ces liens avec les techniques et des technologies libératrices, conçues pour la vie et contre sa destruction. La protection de la vie et la mise en son centre des soins contre l'extractivisme constitue une des tensions qui traverse tout le champ d'action des infrastructures féministes. Nous nous centrons maintenant sur des initiatives féministes qui se préoccupent de leur autonomie et autogestion numérique et qui développent des pratiques politiques et des usages créatifs avec les technologies d'information, communication, documentation et mise en relation. Cette ère d'action est habitée par des cyberféministes des mouvements de femmes s'emparant des enjeux politiques posés par l'utilisation des technologies. Celles dont elles ont besoin pour informer et communiquer, mais aussi celles qui s'imposent à elles pour les surveiller, contrôler ou les exposer à de nouvelles violences. L'infrastructure des télécommunications et des médias sont des territoires hostiles envers les femmes, les dissidents de genre, les personnes de couleur, les indigènes, les minorités culturelles. Ce sont des territoires en dispute, qui sont aussi cruciaux pour l'obtention et le maintien de nos libertés individuelles et collectives. Lorsque nous perdons la souveraineté et l'autonomie sur nos moyens d'information et communication, sur nos données, sur nos corps discrétisés et biométrisés, c'est tout le mouvement féministe qui perd de sa capacité à agir et à transformer le monde. Pour pouvoir repenser nos trajectoires et nos mémoires collectives avec les technologies, pour pouvoir les raconter et les voir, nous devons examiner les mouvements collectifs des communautés impliquées dans la création de leurs propres techniques et technologies libératrices. Cette exploration commence par la création et maintenance de ressources féministes en ligne, qui se constitue peut-être comme un des exemples d'infrastructures féministes le plus commun et étendu. Il est suivi de l'exemple des lignes d'attention, helplines, pour permettre un accès à de l'information qui peut sauver des vies. Et de comment ce type d'infrafemme peut soutenir des réseaux de sororité aux formes extrêmement variées. Puis, nous parlons de la question des serveurs féministes et de comment héberger des contenus et des services en ligne. Et évidemment, nous allons aussi parler des perspectives féministes intersectionnelles dans le développement des protocoles d'Internet, d'algorithmes et de vote. Des ressources et des répositoires féministes. La création et la maintenance de ressources de la part des féministes est peut-être la partie la plus visible et connue de l'infrastructure féministe. Les féministes organisent pour créer et maintenir des ressources utiles à l'adresse d'autres personnes. Souvent, une de leurs motivations est de rendre visibles des contenus d'intérêt pour les femmes et les personnes LGBTQ+, ou alors pour faire de la her story, c'est-à-dire retrouver, documenter, écrire et rendre visible la contribution des femmes et des féministes à divers champs d'action. Au vu du fait que toute l'histoire des arts, sciences et technologies ont besoin d'être réécrites depuis une perspective anticolonialiste, féministe et anticapitaliste, ce terrain d'action reste de première importance pour l'infrafem. Une autre motivation se trouve dans la création de ressources partagées pour leur donner plus de visibilité, afin de faciliter leur inclusion dans des domaines desquels elles ont été traditionnellement exclues, comme par exemple le développement de technologies numériques ou la sécurité numérique. Ces ressources peuvent être aussi directement orientées vers la création de plus d'opportunités professionnelles ou consister dans la création de listes afin de partager l'information au sujet d'agresseurs sexuels ou de personnes qui ont un agenda clairement misogyne ou raciste. Nombre de ces ressources ont des politiques de visibilité diverses. Certaines cherchent une diffusion publique alors que d'autres ont comme objectif d'être seulement partagées ou accessibles dans des réseaux d'affinité. De la même façon, certaines de ces ressources sont créées au sein d'une infrastructure créées et gérées par des féministes et d'autres sont créées dans l'Internet féministe et peuvent se déployer au sein de Google Docs et Facebook Group. Finalement, il est important de souligner que la plus grande partie de ces ressources sont produites et maintenues, le plus souvent de manière volontaire. Elles disposent rarement d'un modèle économique pour les soutenir et elles dépendent en général de la motivation et passion de leurs développeurs. Ligne d'attention, Helpline. Initialement créée pour aider les personnes qui envisagent de se suicider, il existe aujourd'hui des lignes d'assistance qui fonctionnent pour aider les personnes qui sont victimes d'intimidation, harcèlement, traite, exploitation humaine. Nous pouvons interpréter ces initiatives comme une réponse auto-organisée de la société civile pour contrer ces violences. Les lignes téléphoniques d'urgence créées par des femmes pour des femmes qui cherchent des informations sur leurs droits sexuels et reproductifs, ou comment obtenir un avortement sans risque dans des pays où ces droits sont persécutés ou criminalisés présente un intérêt tout particulier. Les lignes d'attention fondent leur approche le plus souvent sur des principes de respect, solidarité, inclusion et confidentialité. Et elles ont été reproduites avec plus ou moins de succès par les institutions et agences publiques. Nous faisons référence par exemple aux lignes d'assistance téléphonique contre la violence sexiste et la violence domestique. Une ligne d'attention peut être légale ou criminalisée, informelle ou formelle. Elle peut avoir une structure légale, privée ou publique. Certaines émanent de la société civile pour la société civile. Certaines reposent sur le bénévolat, les dons, les subventions, le financement public. Certaines recueillent des données et développent une analyse de leur échantillon d'appel pour informer les politiques publiques ou créer des données longitudinales. Leur versatilité et le fait qu'elles soutiennent et impliquent des réseaux de sororité en font un autre exemple parfait d'infrastructure féministe. Car le réseau de sororité est au final une de nos premières technologies féministes, peut-être la plus ancienne et la plus répandue. Serveurs féministes. Les serveurs féministes sont un sujet de discussion et un ensemble de pratiques technopolitiques développées par des réseaux et des groupes de cyberféministes et transféministes intéressés dans la création d'une infrastructure communicationnelle plus autonome. Elles veulent que les données contenues et la mémoire des groupes féministes soient correctement accessibles, préservées et gérées. Actuellement, il existe une dizaine de serveurs féministes en fonctionnement, principalement en Amérique latine et en Europe. Certains de ces serveurs se constituent comme un terrain d'expérimentation pour que ses membres puissent apprendre à gérer un serveur avec d'autres féministes. Et d'autres serveurs ont plus vocation à fournir des services et de l'hébergement et pourvoir à la subsistance de ses membres afin qu'elles puissent gagner leur vie en administrant des serveurs. La question du modèle économique idéal est une question encore ouverte qui devra être explorée et re-questionnée par les mouvements féministes et par les fonds féministes. Thank you.